Cape Town Afrique du Sud, le 3 décembre 1967, un groupe de médecins, conduit par le docteur Barnard, procédait avec succès à la première transplantation cardiaque. Les réactions suscitées par cet exploit médical furent assez diverses. Certains exprimaient leur joie et leur admiration, tandis que d'autres élevaient d'amères critiques. Une question s'empara de nombreux croyants. Une opération de ce genre n'empiète-t-elle pas sur les prérogatives de Dieu? La volonté de l'Éternel permet-elle de toucher au cœur et surtout d'aller jusqu'à le remplacer par celui d'une autre personne? Posons-nous la question. La transplantation cardiaque est-elle conforme à la volonté divine? Il est naturellement important de ne pas essayer de répondre sur la base de nos émotions et convictions religieuses ou autres convictions préconçues. Il faut interroger Dieu. Ce faisant, nous nous tournerons vers sa parole, la Bible. Notre interrogation se nuance pour devenir « Que veulent dire les Écritures lorsqu'elles utilisent le terme « cœur » ?» La Bible le décrit comme étant le centre d'un élément, la partie la plus importante permettant de représenter un tout. La langue française l'utilise pour désigner la partie centrale de quelque chose, le cœur d'une ville, le cœur d'un pays. Les Écritures emploient également le mot « cœur » dans son sens physique, autrement dit, le principal organe thoracique de la circulation du sang. Notre existence terrestre dépend essentiellement de la régularité de ses battements. S'il est percé, la mort survient aussitôt. C'est comme cela que périt le fils rebelle de David, Absalom. Et la Bible décrit également les effets que l'émotion peut avoir sur notre cœur. Il bat plus vite. Ce fut le cas pour les assiégés de Jérusalem. Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Qui d'entre nous n'a pas subi des sensations similaires? Cependant, les Écritures utilisent le mot « cœur » pour décrire le centre de la vie spirituelle, ce que Paul, pour sa part, appelle l'homme intérieur. Jésus montre qu'il est le siège de la compréhension en déclarant ceci. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. C'est à partir du cœur que l'homme conçoit, décide, raisonne ses actions. C'est là que se situe également la conscience des êtres humains, là où leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Enfin, dans le cœur réside la source de l'émotion, de l'affection. Par conséquent, lorsque la parole de Dieu parle au cœur, ce n'est pas dans la plupart des cas à l'organe situé dans la poitrine qui pompe le sang dans les veines qu'il s'adresse, mais au centre de l'homme, avec ce qu'il comporte comme intellect, volonté, conscience, réaction même. C'est là le genre de cœur auquel l'Éternel s'intéresse, bien qu'il décide combien de temps notre cœur matériel va battre. Lorsqu'on considère le nombre de transplantations cardiaques par rapport aux facteurs réussite, on se rend compte que c'est malgré tout l'Éternel qui seul connaît la longueur de l'existence de chaque être humain. En fait, rien n'a changé. Des voix tonitruantes se sont élevées au nom de la Bible contre les transplantations. Cela est basé sur une compréhension très imparfaite de ce que les Écritures comprennent par le mot « cœur ». Les protestations veulent entièrement ignorer que ce genre d'opération chirurgicale ne touche absolument en rien le cœur auquel Dieu prête toute son attention. La nature et le comportement du patient ne se modifient pas. Même après l'échange d'organes, ses pensées, son caractère lui reste propre. Le véritable cœur que le Créateur désirait tant changer par le canal de Christ reste le même. Une transplantation cardiaque ne peut avoir d'effet sur l'éternité que dans le sens qu'elle accorde un laps de temps supplémentaire à chaque sujet et que cette prolongation de vie peut être utilisée à se tourner vers la volonté de Dieu. Et en ceci, cette intervention ne diffère en aucun point des autres qui aident à prolonger la vie. La transplantation d'autres organes vitaux est également pratiquée depuis plusieurs années et de par le monde, des milliers de reins l'ont été. Il est cependant étrange de constater combien peu de protestations ces opérations-là ont provoqué. Arrivé à ce point de cet exposé, on peut déjà dégager une idée de base. Savoir que cette question ne peut être traitée à l'aide d'impressions, de réactions émotives, mais à la lueur du fait, aussi sec qu'il soit. Ceci est spécialement vrai lorsque quelqu'un parle au nom de la Bible. Le monde, incroyable comme il l'est, et comme l'expérience du passé le prouve, a toujours tenter de faire retomber de telles erreurs d'interprétation des Saintes Écritures sur la Bible elle-même. C'est précisément ce genre d'attitude, adoptée par des irresponsables, qui barre la route menant vers Christ à nombre de membres des plus jeunes générations. Cette dangereuse opération dont l'aboutissement est toujours aléatoire n'est tentée que lorsque tous les moyens thérapeutiques sont épuisés. En fait, quand le cœur atteint un état situé au-delà de tout espoir de guérison ou d'amélioration. Réalisez-vous, cher ami, que Dieu, dans sa parole, prononce un diagnostic en tout point semblable à propos du cœur biblique de l'homme. L'épistolier aux Hébreux dit ceci: « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Cette vision des choses de Dieu, qui sait tout, est exacte. Nous-mêmes, ainsi que de nombreux malades, pourrions ne pas apprécier les résultats de l'examen divin, et trop souvent nous sommes enclins à penser que le maître exagère quelque peu notre cas ou désire nous effrayer. Mais si nous voulons vraiment vivre dans l'amour de Dieu, il est essentiel de connaître son diagnostic et de ne pas le considérer à la légère. La Bible nous révèle plusieurs choses sur le cœur. Premièrement, le cœur humain, quant à ses rapports avec Dieu, et en ce qui concerne l'intellect, est obscurci dans les ténèbres. Et Paul dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Il est impossible que l'homme ignore son Créateur sans encourir un châtiment. S'il quitte la lumière, la nuit l'enveloppera aussitôt. Son esprit est baigné alors d'obscurité, de manière à ce qu'il ne réalise pas l'horrible chose qu'il est en train de faire. La tragédie humaine consiste précisément à ce qu'une fois entré dans cette nuit terrible et totale, on se trouve dans l'impossibilité de voir la vraie réalité spirituelle, pas plus d'ailleurs que la nature exacte de l'Éternel. Lorsque son bien-être spirituel est en jeu, il sombre dans une intelligence, un raisonnement obscurci. L'Esprit Saint enseigne clairement que cet état de ténèbres dans lequel est plongé le cœur est responsable des perversions sexuelles ainsi que de la détérioration des rapports que l'homme entretient normalement avec ses semblables. Cette affection du cœur est-elle guérissable? Deuxièmement, le cœur dont parle la Bible est également le siège de la volonté. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, dit la Bible, dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible. À propos du peuple de Dieu vivant sous l'Ancien Testament, le Seigneur stipule « Ils ont suivi les conseils, les pensées de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. » Combien de fois ne nous plaignons-nous pas de mauvais voisins, de mauvais compagnons de travail, de mauvais supérieurs? Combien de fois n'entendons-nous pas cette accusation? Le monde est mauvais. Mais d'où vient toute ce vilainie? Jésus répond à cette question en disant, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur. Il est évident que nous voyons le mal bien plus vite dans la vie des autres que dans la nôtre. Mais en dépit de toutes nos excuses, explications et raisons, le diagnostic de Dieu est le bon. Le cœur de l'homme est mauvais dès sa naissance. Ce mal peut-il être enrayé? Troisièmement, que dire de notre conscience dont le siège se trouve également, dit la Bible, dans le centre de l'homme, son cœur? Le prophète Jérémie disait il y a bien longtemps déjà, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Un cœur tortueux et méchant peut-il s'attendre tout normalement à la chance et au salut? Que dit notre jugement? Impossible. Quiconque sème le mal ne peut récolter le bien. Nos chutes et la culpabilité qui en découle transforment notre conscience et la place dans un état de non-réceptivité au salut. La question se pose, ces sentiments refoulés de culpabilité ne sont-ils pas responsables des complexes qui tourmentent l'être qui, à leur tour, conduisent à toutes sortes de névroses plaies de notre époque? L'homme vivant loin de Dieu, sans que le vrai bonheur, la paix intérieure et le salut, bien sûr, étant absent de son existence, il laisse un trou béant. Comment changer tout cela? Quatrièmement, en parlant de ces émotions profondes, le cœur humain, et spécialement dans ses rapports avec Dieu, il est un indocile, rebelle, endurci comme la Bible le décrit encore ailleurs. Des parents sont-ils à même d'aider un enfant indocile, rebelle et endurci? Peuvent-ils le garder du mal si son attitude persiste? Cela est improbable et nombre de parents pourraient sans doute en témoigner. Il faut donc reconnaître que le cœur humain est également malade sur le plan de ses émotions. Si nous commençons à discerner le cœur humain comme le Créateur le voit, nous pouvons alors mieux comprendre pourquoi il considère la transplantation cardiaque comme étant le seul espoir. Notre ancien cœur est incurablement malade et ne peut se régénérer par lui-même. Chaque âme qui désire recevoir la vie spirituelle a besoin d'un nouveau cœur. Cela peut paraître surprenant, mais il y a plusieurs milliers d'années, l'Éternel prédit dans sa parole une véritable greffe du cœur. Et oui, écoutez plutôt, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est à la première venue de Christ et l'établissement de son Nouveau Testament que cette ancienne prédiction se transforme effectivement. Sachant que les Écritures donnent au terme cœur le sens d'homme intérieur ou du centre de l'individu, nous voyons dans le Nouveau Testament la réalité d'une telle transplantation, tout comme Dieu la veut. Pensons aux paroles suivantes de Paul. Vous avez été instruits à vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité.